Nous avons parlé de la foi. La foi, c'est l'un des ingrédients qui nous amène à pouvoir accomplir la destinée de Dieu. Dans la destinée de Dieu, on a vu à plusieurs étapes. Et nous sommes arrivés à la foi. Et nous avons fini la foi vendredi. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements, essayez de demander à la librairie acheter un CD. Comme ça, je vais être bref. Mais la foi, la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle ne sert absolument à rien. Ce n'est pas les œuvres dans le sens œuvres, les œuvres qui donnent à la foi la puissance. C'est que veut dire quoi? Une foi qui ne se matérialise pas par des actes, c'est une foi qui ne sert absolument rien. Alors j'ai un verset qui me passe à l'esprit que je n'ai pas lu. Et ce verset qui dit, la foi agit dans l'amour. La foi est agissante dans l'amour. Qui se rappelle où se trouve ce verset? C'est dans Galates. Galates 5, tu penses, José? C'est bien ça? Je ne pense pas. Ça ne peut pas se trouver là parce que là, c'est autre chose. C'est Galates, c'est pas, ça doit être Galates 6, non? Alors, si vous avez trouvé, vous me le dites pendant que je. C'est dans Galates. Je n'ai pas eu le temps de. Ça me vient à l'esprit. Alors, nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, et la Bible dit ces trois choses demeurent. Quand on dit demeurer, c'est qu'il y a de quoi? Galates 5, merci. Galates 6, 5 ou Galates 5, 6? Ok, l'amour, la foi est agissante dans la. Par l'amour. Donc, les moyens par lesquels la foi agit, c'est quoi? La foi est agissante par là. On a vu la foi. La foi nous amène à notre destinée. Mais la foi ne peut qu'agir par l'amour. Donc, les moyens par lesquels la foi devient agissante ou puissante, c'est là. L'amour. Donc, je peux avoir la foi, mais si ma foi ne passe pas par l'amour, ma foi n'agit pas. Qui a compris? Où est ta Bible? Ok. Va le prendre. La foi est agissante par l'amour. Le moyen par lequel ma foi est appelée à agir, il faut que ma foi passe par là. Si elle ne passe pas par l'amour, ma foi ne sera pas à. Je peux avoir la foi, mais cette foi peut être bloquée. Donc, la foi en elle-même, sans passer par l'amour, elle ne peut pas agir puissamment. Nous revenons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand nous lisons le livre des Corinthiens, Paul parle à une église dont lui-même a été le fondateur, dont il a bâti. Et après avoir bâti cette église, il est parti. Et il y a eu des problèmes, des situations, il y a eu des questions. Et ces questions maintenant ont été posées à Paul. Le livre des Corinthiens, ce n'est que la réponse aux questions posées à l'apôtre ou au pasteur de cette église, Paul. Je dirais même l'apôtre de cette église. Alors, l'église de Corinthe voulait avoir des réponses sur des questions. Et au début, au commencement du livre, Paul répond et explique. Il explique quoi? Il dit aux Corinthiens, le Seigneur est tellement bon, il vous a donné ça, 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 ça. Mais plus loin, il dit mais. Alors, vous savez, quand les mais rentrent en lice, c'est que nous devons nous rendre compte que tout ce qui a été dit avant n'a plus la même portée. Mais. Alors, mais quoi? Il commence à dire que j'ai entendu ce que vous faites par l'église de Chloé. Regardez ce que vous faites, c'est là. Donc, il a énuméré tout ce qu'il faisait. On s'est rendu compte que, bien qu'ils ont commencé par l'esprit, mais ils ont commencé, après, ils ont commencé à décliner. Paul essaie de redresser la barre, essaie de dire, et il dit même, on a entendu même que parmi vous, il y en a certains qui sortent avec les femmes de l'air, papa. Donc, il y avait une immoralité dans cette église à tel point que Paul était obligé de redresser la barre. Cela ne veut pas dire qu'à cause de l'immoralité, ils n'étaient plus enfants de Dieu. C'est simplement, ils commençaient à empêcher le flot de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu, mais ils avaient oublié l'essentiel. Ils avaient oublié le moteur. Ok? Vous avez une voiture. Une voiture, elle peut avoir une belle carrosserie. Mais ce n'est pas la belle carrosserie qui compte, c'est ce qui est dans la voiture, c'est le moteur qui est important. La carrosserie peut être belle, mais s'il n'y a pas de moteur, la voiture ne peut pas aller loin. Mais il peut aussi avoir le moteur. Mais le moteur en lui-même ne peut pas déplacer la voiture. Maintenant, il faut qu'il y ait quoi? De l'essence. Voilà. Je vais donner un exemple qui va nous aider à comprendre la foi et l'amour. Ok? La foi, c'est de l'essence qu'on met dans une voiture. La voiture, tout d'abord, n'a pas besoin d'essence si la voiture n'a pas de moteur. Après avoir posé les moteurs, mis les moteurs en place, vous allez vous rendre compte qui c'est qui a travaillé dans les usines de voitures, de fabrication de voitures. Voilà. Alors moi, je ne sais pas, les reportages que j'ai vus, quand on commence à construire une voiture, les premières choses, ce sont des tôles, tout ça. Après avoir tout fini de faire, on met le moteur après. Ce qui veut dire quoi? Après avoir fini maintenant de mettre le moteur, on met de l'essence pour tester le moteur. Si on met de l'essence avant le moteur, ça ne servira absolument à rien. Donc la foi est comme de l'essence. Maintenant l'amour est comme le moteur. Parce que c'est dans le moteur que tout fonctionne. L'essence doit passer par le moteur pour que la voiture puisse se mettre en marche. Donc on peut avoir le moteur et on met de l'essence. Mais s'il y a un problème, on peut avoir la voiture, pardon, on met de l'essence. Mais s'il y a un problème technique dans le moteur, la voiture démarre comme mais la voiture n'avance pas. Maintenant, la Bible dit c'est bien d'avoir la foi. Mais la foi n'agit que puissamment par l'amour. Et nous avons vu que la foi a quatre dimensions. Et dans les quatre dimensions, nous avons vu la troisième dimension de la foi, c'est comme une loi. La quatrième dimension, maintenant, c'est comme une attitude. La foi comme loi veut dire quoi? Nous trouvons un support pour que nous puissions aller plus loin. Or, ce support ne peut que passer par l'amour. Alors, Paul maintenant revient. Je reviens dans le livre de 1 Corinthiens. Paul maintenant revient après avoir parlé des dons spirituels dans le chapitre 12. Dans le chapitre 13, Paul dit au verset. Chapitre 12, au verset 31. Il dit, aspirez au don le meilleur. Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par. Il dit, aspirez à ces choses, mais il y a une voie par ex. Maintenant, la voie par excellence commence dans le chapitre 13. Et à la fin du chapitre 13, il dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent ou existent dans d'autres versions. La foi, l'espérance. J'aime pas la charité parce que la charité a un rapport avec la chair. Parce qu'il y a la foi agapé, pardon, il y a l'amour agapé ou agapao, et l'amour philéo, et l'amour eros. Donc charité, c'est avec eros. Eros, qui veut dire quoi? Chair. Philéo, sentimental. Où on est lié par les sentiments fraternels, filéo, filial. Ok? Eros, c'est chair. C'est entre, quand vous voyez, ah, je suis amoureux. Non, c'est un coup de foudre. Parce qu'au bout de quelques semaines, tu n'es plus amoureux. Il vous est jamais arrivé, vous avez rencontré quelqu'un pour la première fois. Vous sentez comme si vous ne l'épousez pas ou vous n'allez pas avec elle ou avec lui, votre vie est foutue. Ça, c'est Eros. Votre cœur bat à 200 km à l'heure. Vous le faites et ça vous précipite de faire des choses. Il faut le faire maintenant. Mmh. Héros, ça met la pression sur toi. Tu dors, mais tu ne dors pas. Ok, on la ferme cette parenthèse, sinon je ne vais pas finir à l'heure. Je me discipline. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent ou existent. La foi, l'espérance, l'amour. Hein? Mettez à côté l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est là. Pourquoi? Parce que la foi doit passer par l'amour. La plus grande de ces choses, c'est là, l'amour. L'amour n'est pas une loi, mais l'amour, c'est un fondement. C'est un commandement. Il est très important de différencier la loi au commandement. La loi, c'est une règle exprimant la volonté de Dieu. C'est une règle qu'on exprime, qui exprime la volonté de Dieu. Mais le commandement, c'est une règle, pas simplement une règle qui exprime la volonté de Dieu, mais c'est une règle de conduite. Ça change tout. Une règle de conduite est dictée par l'autorité de Dieu. Donc, ce sont des règles où Dieu a mis des choses pour que nous puissions être conduits. La loi exprime la volonté de Dieu, ou la loi exprime des règles générales, mais les commandements rentrent en détail de ce qui a été exprimé, donnent le vrai sens dans ce qui a été vraiment exprimé. Ça bâtit tous les fondements de ce qui a été exprimé. Et le problème, c'est que pendant des années, nous avons été mal enseignés par rapport à ces domaines. S'il y a un domaine par lequel nous devons être des spécialistes, des experts dans notre foi avec notre Père, c'est ce domaine de l'amour. Trop souvent, on a cherché des choses qui n'ont jamais été des fondements. Je vous dis, l'amour, c'est le fondement le plus grand, le plus profond. Parce que l'amour n'a rien à voir. Comprenez bien, l'amour dont je vous parle aujourd'hui n'a rien à voir avec des émotions. L'amour, c'est une force. Une émotion vient par rapport aux circonstances et aux situations. Mais l'amour n'est jamais déterminé par rapport aux situations, aux circonstances. C'est une force. Pas simplement une force, mais une puissance qui change des situations et des circonstances. Pas seulement circonstances et situations qui changent des vies des gens. Comment, pasteur, tu le sais? C'est simple. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde entier, il a donné son... Qu'est-ce qui a poussé Dieu à donner son Fils? Ce ne sont pas nos péchés. Ce ne sont pas le fait qu'on allait vers l'enfer, non. La chose qui a poussé Dieu à donner son Fils, c'est son amour. Remarquez bien, la chose qui a poussé Dieu à ce que nous puissions revenir vers lui, ce n'est pas le fait qu'on a fait de bonnes, de grandes choses, c'est parce qu'il nous a aimés. Regardez à tel point que l'amour est une force, que Dieu a eu la capacité d'accepter de laisser son Fils unique, le seul qu'il avait, pour que vous et moi nous soyons sauvés. Donc si ce n'était pas l'amour, Dieu n'allait pas laisser son Fils. L'amour, c'est une force qui te pousse à faire des choses que tu ne peux pas faire dans le naturel. Donc, ce n'est pas une émotion. Et avant vraiment que je puisse rentrer en profondeur, pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ont du mal à aller dans une dimension beaucoup plus élevée? C'est parce que simplement, ils n'ont pas considéré l'amour comme une force. Ils considèrent l'amour comme une émotion. Et comment ça se passe? Les gens disent, je ne peux pas aimer cette personne si je ne sens pas. Qui a compris? Je le disais. Parce que moi, je ne sens pas cette personne. Dieu n'a pas eu besoin de nous sentir. Parce que s'il avait besoin de nous sentir, on sentait mauvais. Qui comprend ce que je dis? Avant que je rentre en profondeur, vous devez comprendre. L'amour n'est pas une émotion ou des sentiments, c'est une force. Parce que si Dieu devait nous sentir, on sentait mauvais, on sentait péché, 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 multiplié par péché, péché. Mais la Bible a dit, du fait que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils, Il n'a pas dit, ok, lavez vos péchés, venez au ciel, je vous aime. Non, l'amour l'a fait dépasser ce que nous sentons pour qu'il nous puisse nous aimer tel que nous étions, afin qu'il puisse nous amener dans sa dimension. Donc l'amour, c'est une force. Répète après moi, c'est une force. Ce n'est pas une émotion. Ça n'a rien à voir avec mes sentiments. Que tu sentes ou tu ne sentes pas, il faut que tu aimes parce que c'est la force. Parce que si tu n'aimes pas, si tu n'es pas bâti sur l'amour, la Bible dit, ta foi ne peut pas agir. Tu as la foi. Tout le monde a la foi. Mais la Bible n'a pas dit que tu n'as pas la foi. La Bible dit que la foi n'agit que par. Tu comprends? Maintenant, ces trois choses demeurent. Je vais vous montrer la voie par excellence. Et il dit, maintenant, cette voie par excellence doit passer par où? La plus grande, c'est là. Pourquoi l'amour est la plus grande? Parce que l'amour, c'est le fondement même de notre foi. Notre foi est fondée sur l'amour. Notre foi est fondée sur l'amour. Donc, si notre foi est fondée sur l'amour, alors j'ai dit que la foi, c'est une attitude. Donc, notre attitude est fondée sur là. Bon, si l'amour n'a pas été compris comme il doit être compris, ça veut dire quoi? Notre foi n'a aucun fondement. Nous pouvons dire que nous avons la foi, mais on réalise que cela n'agit pas. Donc, il est difficile de faire que les promesses de Dieu deviennent réalité si on n'a pas l'amour. Il est difficile de rentrer dans la dimension auquel Dieu veut que nous puissions rentrer si nous n'avons pas compris qu'est-ce qu'est l'amour. Okay. On peut prier en langue, on peut gêner, on peut faire tout ce qu'on peut faire. On peut donner des millions. Mais si l'amour n'a pas été compris et nous n'avons pas réalisé ces domaines dans lesquels où Dieu a tout fondé, nous passons à côté. Notre foi est là. La Bible n'a pas dit la foi n'est pas là. La foi n'est qu'agissante. Donc elle est là. Mais pour qu'elle puisse agir dans la dimension où elle est appelée agir, il faut que la foi passe par là. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une personne qui se manifeste comme une puissance. Et pour vraiment développer l'amour, il faut prendre la décision de rentrer dans ce domaine. L'amour ne grandit pas en nous. Parce que l'amour n'est pas un fruit, comme on a écrit dans Galates. L'amour, c'est une personne. C'est nous qui grandissons dans l'amour. Tu comprends? L'amour ne grandit pas en nous. Parce que l'amour, n'est pas un fruit de l'esprit. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est une force, ce n'est pas une émotion. Donc, c'est nous qui sommes appelés à grandir dans l'amour. L'amour de Dieu est déjà en nous. Mais maintenant, nous devons grandir dans l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Si Christ est en moi, l'amour de Dieu est là. Mais maintenant, il faut que moi, je rentre maintenant en lui. Que je grandisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok. Alors, ici, maintenant, il dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Verset 14. Chapitre 14, pardon. Et il dit quoi? Recherchez la charité où là? À ma connaissance, quand on me dit de rechercher quelque chose, c'est qu'il veut dire quoi? Je l'avais, j'ai perdu. Alors, retenez bien, Paul ne parle pas aux païens. Paul ne parle pas aux gens qui ne connaissent pas Christ. Paul parle aux personnes qui ont reçu Christ. Il parle à une église, à son église. Il dit à son église, nous allons comprendre aujourd'hui, rechercher. Je vais lire ma version. Ma version dit ceci. Recherchez avant tout cet amour. Donc c'est particulier. Il n'a pas dit rechercher l'amour. Recherchez avant tout cet amour. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs amours, comme on a vu. Et souvent, trop souvent, à l'église, nous confondons ces genres d'amour. Il y a trois sortes d'amour. Il y a l'amour agapé, philéo et eros. Si on n'a pas la connaissance de ces dimensions d'amour, on confond les choses. Il dit, recherchez pas l'amour, cet amour. Quel amour? L'amour agapé. Il spécifie, recherchez cet amour. Ce qui veut dire quoi? L'autre amour peut exister, mais ce n'est pas ça qu'on doit chercher. Rechercher. Recherchez cet amour. Mettez tout votre soin à y être rempli. Votre version simplement s'arrête, rechercher l'amour. Mais la mienne va plus loin. Recherchez cet amour, spécifie lequel, agapé, et dit, mettez tout votre quoi? Votre soin à y être rempli. Donc, si je le recherche, si je recherche quelque chose, c'est qui veut dire quoi? Je l'ai perdu. Je ne peux pas rechercher quelque chose que je n'avais pas avant. Est-ce que je me fais comprendre là? C'est clair. Quand est-ce que nous avons reçu l'amour? Nous n'avons pas reçu l'amour les jours où nous avons commencé à aimer les gens, ou les jours où nous avons commencé à être parfaits. Nous avons reçu l'amour les jours où nous sommes nés de nouveau. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu n'a pas été reçu les jours où nous avons commencé à aimer les gens, ou les jours où nous avons commencé à prier, ou les jours où nous sommes devenus parfaits. L'amour de Dieu a été reçu le jour où nous sommes nés de nouveau. Romains 5. Est-ce que c'est bon? Tout le monde, je vais doucement, là. Tout le monde comprend? Romains 5, verset 5. Que nous dit la Bible? Or, l'espérance ne trompe. Parce que quoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu où? Parler. Qui nous a été donné. Alors, je vais expliquer ça rapidement. Le jour que vous et moi, nous sommes nés de nouveau, la nouvelle naissance ne s'est pas passée au niveau naturel. Elle s'est passée au niveau spirituel. Ce n'est pas notre nature physique qui est née de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Quand nous recevons Jésus, nous ne le recevons pas dans notre corps. Nous le recevons dans notre esprit. Donc, notre esprit naît de nouveau. Et c'est là que nous recevons. C'est là que Dieu maintenant demeure. C'est là que Dieu habite. Le jour où nous avons reçu Jésus, c'est ce jour-là que nous recevons l'amour de Dieu. La Bible dit l'amour de Dieu. Pourquoi? Je vais vraiment essayer de vous faire comprendre. Parce que quand nous recevons Jésus, nous ne le recevons pas physiquement. Nous le recevons spirituellement. C'est notre esprit qui reçoit Christ comme esprit. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans notre esprit, le jour où il vient, il fait quoi? La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre heureux. Répandu où? Dans notre... Donc, si nous n'avons pas, vous allez comprendre, est répandu dans notre cœur. Maintenant, si notre cœur n'arrive pas maintenant à être entier pour Dieu, ce qui veut dire quoi? Même si le Saint-Esprit veut déverser ou répandre l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des blocages. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'amour est répandu. Je vais revenir après sur ce verset. 1 Jean, pour que vous puissiez bien comprendre. 1 Jean 4. Verset 16. Nous dit quoi? Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. 1 Jean 4, pas Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Je ne lis pas la même version que vous. Hein? Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est qui? Dieu n'est pas l'amour. Dieu n'est pas l'amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc, le jour où je reçois Jésus dans ma vie, je reçois qui? Dieu dans ma vie. Donc, le jour où je reçois Dieu dans ma vie, je reçois quoi? Parce que Dieu n'a pas l'amour. Dieu est... Alors, quand j'entends souvent des personnes dire que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Si quelqu'un te dit que tu n'as pas l'amour de Dieu, refuse. Ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est un langage religieux. Parce que si tu me dis que je n'ai pas l'amour de Dieu, c'est que je ne suis pas né de nouveau. Il faut essayer de me faire comprendre que, frère, tu n'as pas encore grandi dans l'amour. Mais ne me dis pas, n'accepte pas que les gens vous disent que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Si vous acceptez que les gens vous disent que vous n'avez pas l'amour de Dieu, automatiquement les gens vous disent que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous comprenez? Parce que Dieu est amour. S'il est amour, le jour où j'accepte Jésus-Christ, automatiquement l'amour de Dieu est... Mais maintenant, cet amour qui est en toi est appelé à être répandu dans tous les domaines de ta vie. Mais ça commence dans ton cœur. Tu as compris? Tu dois maintenant faire un travail que cet amour qui est répandu dans ton cœur puisse toucher tous les domaines, se répandu dans ton cœur. La source où l'amour a été déversé, c'est ton cœur. Maintenant, il faut que tu permettes de ton cœur que cet amour rentre dans tous les domaines de ta vie. Or, cet amour ne peut pas aller dans tous les domaines de ta vie si tu ne comprends pas qu'est-ce que c'est amour. Il y a une différence entre amour, philéo, eros et a. Philéo aussi, on appelle ça Philadelphia. Ok? C'est différent. Alors, si tu ne sais pas faire la différence entre ces trois amours, tu ne vas pas rechercher l'amour approprié pour bâtir ta vie. Pourquoi j'ai dit ça? Matthieu 22. On n'a pas encore touché, on va toucher ça dans 5 minutes. La Bible dit rechercher cet amour. Ok? Matthieu 22, c'est bien ce que j'ai dit. Quel verset? Ok, vous êtes attentifs ce matin. C'est un verset que vous connaissez. 36. À 40. Vous avez trouvé? Maître, quel est le plus grand commandement de là? Alors, vous devez être des spécialistes dans cette église. Je refuse qu'un membre de cette église confonde entre la foi et l'amour. Vous êtes bien enseigné ici. Je suis moi-même le pasteur. Et je vous ai dit les choses telles qu'elles sont écrites dans la Bible. La Bible a dit que la foi, c'est une loi. C'est dans Romains, chapitre 3, verset 27. Ok? Si vous ne comprenez pas, vous avez une mauvaise connaissance des Écritures, vous allez prendre de mauvaises décisions qui vont affecter votre avenir. La Bible dit, mon peuple est péri parce qu'il manque de la connaissance, pas de la puissance. Une mauvaise connaissance d'une digne destination vous perd du temps. Vous avez compris? Vous avez rendez-vous à midi et vous n'avez pas bien appris ou bien acquis ou bien eu la connaissance du parcours par lequel vous devez passer, sachez quoi? Vous allez arriver en... Et j'attire votre attention. La Bible dit que notre vie est comme une course. Paul dit, je cours comme un athlète. Dans une course, la première chose, ce n'est pas le fait d'arriver. Il faut que j'arrive avant tout le monde afin que je remporte un prix. C'est le temps qui compte. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu dit racheter le temps. La seule chose que Dieu nous a donné la capacité à racheter, c'est quoi? C'est le temps. Plus tu perds ton temps, plus tu retardes la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, la mauvaise connaissance, la mauvaise compréhension des Écritures fait que tu puisses perdre ton temps dans tes décisions qui sont mauvaises. Parce qu'une décision, elle est conditionnée par la connaissance qu'on a. Vous comprenez? J'insiste, la foi, c'est une loi. L'amour n'est pas une loi. Maintenant, comprenez bien ces versets. La Bible dit... Les docteurs de la loi sont venus vers Jésus-Christ pour lui poser la question. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Bon, certaines personnes qui viennent d'arriver vont écouter ça pour la première fois, mais il y a des spécialistes de cette église qui ont déjà reçu cette explication. Ok, mais je vais quand même en revenir. Il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Et c'est ce qui nous a été enseigné pendant des années. On n'a pas bien lu la parole, mais on a écouté ce qui a été dit. Mais moi, j'aimerais que tout le monde lise. Ok? Lisons tous ensemble. Maître, quel est le plus grand commandement de la? La question est bien posée. La question n'est pas mal posée. Non. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton. Ok. L'amour de Dieu est répandu où? Il n'a pas dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Or, il y a trois sortes d'amour. Vous êtes d'accord avec moi? L'amour eros, l'amour philéo et l'amour agapé. L'amour eros a quelle dimension de notre être? Chair. Et après la chair, on passe à la deuxième dimension, l'amour philéo ou philadelphia, qui veut dire quoi? Sentimental, les liens filiales. Ça passe à la deuxième dimension de quoi? De notre être, parce que sentiment, c'est dans l'âme. Et maintenant, la troisième dimension, comprenez bien, et écoutez ceci, soyez bien enseignés. La troisième dimension de l'amour, c'est quoi? L'amour a? Et se trouve où? Dans notre cœur, notre esprit. Maintenant, il dit, recherchez cet amour. Quel amour? Ok, qui se trouve où? Qui est répandu où? Maintenant, si tu ne connais pas cet amour-là, tu vas chercher les deux. Tu vas vivre dans les deux. Et là, tu échoues. Vous avez bien acclamé pour moi, j'ai bien enseigné là. Recherchez quoi? Cet amour. Non, cet amour est répandu déjà dans ton cœur. Mais du fait que tu ne le connais pas, tu ne le cherches pas. Tu cherches autre chose. Tu n'as pas besoin de te sentir bien pour faire ce que Dieu te dit de faire. Parce que ta foi ne sera pas agissante dans l'amour philéo, ni dans l'amour éros. Elle va agir dans cet amour-là. Lequel? Ok. C'est fort ça. Il dit maintenant, tu vas commencer dans ton cœur. Parce que si tu commences dans ton âme, tu vas échouer. Parce que dans l'âme, il y a quelle sorte d'amour? Philéo ou philadelphia ou sentimental. Tu n'as pas, voilà pourquoi j'ai dit, l'amour de Dieu, c'est une force. Il dépasse l'amour philéo. Donc tu n'as pas besoin de te sentir bien avec quelqu'un pour l'aimer. Waouh! Cherchez cet amour-là. Voilà pourquoi il dit aime ton. Non, aime ton ennemi. C'est facile d'aimer son prochain. Aime ton ennemi et dit bénis ton ennemi parce que cet amour-là ne va pas, ne considère pas ce que tu ressens. C'est pas une émotion, c'est une force. Tu dois décider de le faire. Waouh, ne manquez pas vendredi parce que je vais vous expliquer comment. J'ai fini tôt aujourd'hui pour que vous puissiez revenir vendredi. Oui, je vais finir dans 10 minutes. Comme ça, Chimel va rentrer chez elle. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ta. C'est le premier et le plus grand. Écoutez la réponse. C'est le premier et le plus grand. Vous avez compris cette réponse? Jésus n'a pas dit c'est le premier et le plus grand commandement de la loi. Non. C'est le premier et le plus grand commandement. Point. Il n'a pas rajouté la loi. Il a répondu à la question, mais pas de la façon dont ils avaient posé. Il a répondu à la question de la façon dont Dieu avait établi les choses. Jésus est venu dire, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Si je vais accomplir quelque chose, ce qui veut dire quoi? Ce qui a été donné avant n'était pas parfait ou n'était pas fini. Okay. L'autre version dit, je suis venu pour parfaire, pour amener à la réalité, pour amener à la fin. Il dit ici, c'est le premier et le plus grand commandement. Il s'arrête là. Il n'a pas rajouté la loi. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme... Voilà, il dit le second qui lui est semblable, qui est pareil. Tu aimeras ton prochain comme... Il n'a pas dit... aime ton prochain. Avant. Il dit aime tout d'abord. Vous savez... Je vais enseigner ça vendredi, mais je vais vous donner simplement une explication. Quand vous voyez un enfant de Dieu a du mal à aimer quelqu'un, c'est simple. Ce qui veut dire quoi? Non, la dimension de son amour avec Dieu, c'est la même dimension de l'amour qu'il manifeste aux autres. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris, non? Parce que vous attendez la première explication. Mais moi, je suis déjà passé à un autre niveau. C'est fini. Quand j'ai enseigné ça la première fois, c'était autre chose. Dieu m'a donné une nouvelle révélation. C'est différent. On a déjà entendu ça. Oui, vous avez entendu ça. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu as du mal à aimer quelqu'un, la dimension de l'amour que tu manifestes à l'extérieur, c'est la dimension de l'amour que tu manifestes avec le Père. Donc, la façon dont tu aimes les autres détermine la façon dont tu aimes Dieu. Parce qu'il dit, tu aimeras ton prochain. Voici celui qui lui est semblable. Donc, le deuxième est semblable au premier. Donc, si dans ta relation avec Dieu, tu es haut, automatiquement dans ta relation avec les autres, ce sera pareil. Ta relation avec les autres dépend de ta relation avec Dieu. Donc, ta relation avec les autres, exprime ta relation avec Dieu. Quand je vois que tu as des problèmes avec des gens, je sais que tu as un problème avec Dieu. C'est clair. J'ai un verset, mais je vais vous montrer ça vendredi. Alors, ne manquez pas vendredi. Je vais rentrer en profondeur dans cette explication-là vendredi. Je la ferme. Il dit ici, tu aimeras ton prochain comme toi. Donc, si quelqu'un a du mal à aimer son prochain, c'est qu'il veut dire quoi? Il est en perte d'identité. Si vous avez du mal à aimer les autres, vous ne vous aimez pas vous-même. C'est écrit. Vous êtes complexé. Vous avez une mauvaise image de vous-même. Tu aimeras les autres comme? Répétez. Si tu n'arrives pas à aimer les autres, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu as un problème avec toi-même. Moi, quand je vois quelqu'un qui n'aime pas les autres, je dis, il ne connaît pas ou elle ne connaît pas qui elle est ou qui il est. Le fait de ne pas aimer les autres veut dire quoi? Tu manifestes l'insatisfaction qui est en toi. Qui comprend? Vous n'allez pas tomber, vous allez vous asseoir et bien écouter. C'est trop souvent, on tombe et puis on n'écoute rien, on rentre chez soi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dit rien. Vous allez comprendre aujourd'hui. Dieu est bon. Et lisons tous ensemble pour finir. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Ok, pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit c'est le plus grand commandement de la loi? Parce que la loi dépend. Quand je dépends de quelque chose, ça veut dire quoi? Attendez. Lisons un peu. De ces deux commandements dépendent quoi? De ces deux commandements dépendent toute la... La foi est quoi? La foi, elle est quoi? Elle est une... Elle dépend de quoi? Elle dépend de quoi? De ces deux commandements dépend toute la loi et les. Donc, si je n'ai pas l'amour, ma foi ne sert absolument pas. Ma foi dépend de quoi? Ma foi dépend des commandements qu'on appelle l'amour. Donc c'est le command, c'est le, l'amour n'est pas. L'amour n'est pas le commandement de la loi. Je vais expliquer ça vendredi. Bien. L'amour n'est pas le commandement de la loi. L'amour, c'est un commandement. Pourquoi? Parce que c'est quoi? L'amour, c'est le fondement. Mais parce que l'amour n'est pas un fruit, l'amour, c'est Dieu. Comment? Là, on a lu que Dieu est un. Mais comment Dieu va dépendre? Comment Dieu doit devenir encore une loi? Attendez, est-ce que Chirac est une loi? Chirac. C'est une. Chirac crée la loi, vote la loi, ou propose la loi. Mais Chirac n'est pas une. Qui a compris? Bon, Chirac c'est une personne. Mais je change un peu mon explication. Est-ce que la présidence de la République, c'est une fonction, ok? Est-ce que c'est une loi ou c'est une fonction? Vous êtes d'accord avec moi? Tant que Chirac est président, vous pensez que la loi peut l'arrêter? Vous savez que la présidence de la République est au-dessus de la loi? Qui a compris? Parce que la loi de la République dépend de la présidence. Les juges courroies peuvent monter, descendre. Si le président dit niette, c'est niette. Et il dépend de lui. C'est lui qui vote le premier magistrat. C'est le premier magistrat. Comment vous allez arrêter le premier magistrat? Vous êtes sous son autorité. La Constitution dit que Jacques est le premier magistrat de la France. Vous allez arrêter le premier magistrat. C'est lui qui vous a nommé. Vous voulez l'arrêter. Comprenez un peu pourquoi je donne ces explications. Pour que nous puissions saisir un peu ce qui veut dire l'amour. Pendant longtemps, on nous a mal enseigné sur ça. On nous a dit, oui, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu. Oui, si tu n'aimes pas ton prochain, ce qui veut dire non. On a mis les choses à l'envers. Il est difficile d'aimer les gens si tu n'aimes pas Dieu tout d'abord. Qui a compris la priorité? On a changé les priorités. Et on dit, tu n'as pas l'amour. Si on te dit que tu n'as pas l'amour, refuse. Dis non, je n'ai pas encore grandi dans l'amour. Mais l'amour, j'ai. Si je ne grandis pas dans l'amour, ça veut dire quoi? J'ai perdu l'amour. J'ai confondu entre l'amour que je dois chercher, rechercher, et l'amour que je suis en train de chercher et de manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, le diable sait que tu peux avoir la foi. Il sait aussi que tu peux sauter dans ça l'église. Il sait aussi que tu peux être pasteur comme le pasteur Freddy. Dieu ne m'exauce pas parce que je suis pasteur. Ma foi n'agit pas parce que je suis pasteur, c'est faux. Ma foi agit parce que je me soumets au commandement qui est l'amour. Et pour finir, Matthieu, j'ai fini, j'avais promis. Le plus court possible aujourd'hui. Matthieu 24. Comme ça, vous allez revenir vendredi. Jésus-Christ parle à ses disciples. Il leur explique la situation. Comment les choses se passent. Comment les choses fonctionnent. Alors, ils posèrent la question. Seigneur, quand viendra-t-il la fin du monde? Hein, Jésus commence à expliquer. Il explique. Alors, il y a une chose dont l'Église n'a pas fait cas. C'est ce qui est essentiel. Je me rends compte souvent la religion parle des choses qui ne sont pas essentielles. Parle des choses vaines, mais ne touche pas le fond. Ne touche pas le fondement même. Jésus-Christ parle ici. Il arrive au verset. Au verset 8. Lisons tous ensemble le verset 8. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de quoi? Des morts. Si tu es haï à cause du nom de Jésus, ce n'est pas un problème. Dis, ce n'est pas un problème. Alors Mais il faut pas que tu sois haï parce que tu sors avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui ou tu t'intéresses aux affaires d'autrui. Si tu es haï de cette façon, c'est une bonne raison que tu sois haï. Tu es fautif ou fautive. Ok? Oui, le pasteur m'a dit, non, si tu fais ce qui est en dehors du commandement de Dieu, tu es la seule responsable. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup d'eux. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme c'est, mais celui qui persévérera jusqu'à là, c'est lui qui fera quoi? C'est lui qui... Regardons bien. Verset 9. Alors on vous livrera au... En vous, c'est au pluriel. On est plusieurs là. Et on vous fera plusieurs. Et vous serez haïs de plusieurs. À cause de quoi? Alors, aussi plusieurs. C'est plusieurs au pluriel. Et ils plusieurs. C'est haïrons. Plusieurs les uns les. Plusieurs faux prophètes séduiront. Verset 12. Et parce que l'unité sera accrue, l'amour du plus grand, qu'est-ce qui va se refroidir? Quel amour qui va se refroidir? Mais pas philéo. Pas eros. Le diable n'attaquera pas votre amitié. Non. Il sait que pour détruire votre amitié, il attaque le vrai amour, le fondement. La Bible dit rechercher cet amour. Parce que le diable, quand il vient, pour détruire ta vie, il faut qu'il détruise les fondements. Il sait que les fondements, c'est l'amour. Agapé. Sur lequel tout est fondé. Il attaque, il fait refroidir l'amour. Tu n'as plus la passion de Dieu. Tu n'as plus la passion des choses de Dieu. Il fait refroidir à tel point que tu commences à manifester autre chose que ce qui n'a pas été donné par Dieu. Alors, les diables attaquent les fondements. Il sait que s'il détruit cet amour, il détruit tout. Tu vas répéter après moi. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Je sais que Dieu a dit que j'ai. Je marche dans ce que Dieu a mis dans ma vie. La puissance du diable est brisée. L'autorité et le règne de Dieu se manifestent dans ma vie. Je suis plus que vainqueur. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Je suis capable d'aimer parce que l'amour de Dieu c'est une force. L'amour de Dieu c'est une décision. L'amour de Dieu c'est une volonté. L'amour de Dieu c'est une personne. Et j'ai cette force, j'ai cette capacité, j'ai cette personne. Je déploie la puissance et la force de briser la haine, la rancune, la médisance, mon passé, dans le nom de Jésus. Une dernière chose, vous savez. La chose qui détruit, qui fait que l'amour de Dieu ne puisse pas se répandre, c'est les blessures du passé. Et j'ai compris une chose. Tout ce que vous avez vécu a permis que vous soyez forgé d'une manière ou d'une autre. Que vous ayez une expérience. Mais vous ne pouvez pas vivre votre futur par rapport à votre passé. C'est fini. Paul a compris cette façon de faire. Dans Philippiens 3, il dit, ce qui était pour moi de gain, je le considère comme une perte à cause de Christ à cause de la force. L'amour, c'est une force. Mais cette force ne se déploie pas. Cette force est empêchée de se manifester quand vous retenez encore les blessures du passé. Je sais que vous êtes là. Je sais que votre passé vous poursuit. Je sais que tout ce qu'on vous a fait vous poursuit. Mais laissez-moi vous dire, il est temps de dire bye bye au passé. Qui c'est ce matin? Écoutez-moi bien. C'est une décision d'oublier son passé et de dire bye bye au passé. Vous n'avez pas besoin de sentir. Ce ne sont pas vos sentiments. Il y a une différence. L'amour philéo, eros et agapé. Dans l'amour philéo, vous avez besoin de sentir. Dans l'amour agapé, vous avez besoin d'être proche. Mais dans l'amour agapé, ce n'est pas ce que vous sentez qui est important. J'ai pris une décision. Je vais le faire. Et cette décision devient une force. Qui a compris? Peu importe ce que vous ressentez. Je n'ai pas besoin de ce que vous ressentez. Ne restez pas dans Philéo. Si vous êtes là aujourd'hui, et vous savez que vous avez été blessé dans le passé, et que jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à aller plus loin, levez la main.